24h39.
Chapitre 90. Têtes ou queues. De balena vero sufficit, si rex abeat caput, et regina caudam. Bracton, livre 3, chapitre 3.
Cette phrase latine tirée des livres des lois d'Angleterre, si on la considère dans son contexte, signifie que de toutes les baleines capturées au large des côtes de ce pays, le roi, en sa qualité de grand harponneur honoraire, doit recevoir la tête, tandis que la reine se verra respectueusement offrir la queue. Ce partage de la baleine ressemble fort à celui des deux moitiés d'une pomme. Rien ne reste de la division. Comme cette loi est toujours en vigueur en Angleterre, bien que sous une forme différente, et qu'elle s'écarte singulièrement à bien des égards de la règle générale relative au droit de prise, on en fait ici l'objet d'un chapitre distinct, selon le même principe de courtoisie qui veut que les chemins de fer britanniques fassent la dépense d'un wagon spécial réservé à l'agrément du souverain. En premier lieu, et afin de faire la preuve que, curieusement, la loi susmentionnée est toujours appliquée, je me propose de rapporter au lecteur un fait survenu au cours de ces deux dernières années. Quelques honnêtes marins de Douvres ou de Sandwich ou de l'un des cinq ports avaient réussi, semble-t-il, après une dure poursuite, à tuer et à échouer une magnifique baleine qu'ils avaient d'abord aperçue du rivage. Les cinq ports sont placés, peu ou prou, sous l'autorité d'une sorte de fonctionnaire de police appelé Lord Gardien. Comme il tient directement sa charge de la couronne, je crois, tous les émoluments royaux attachés au territoire des cinq ports lui reviennent de droit. Certains auteurs qualifient cet office de sinécure. Il n'en est rien, car le Lord Gardien a fait affaire pour filouter ses revenants bons, qui ne tombent essentiellement dans sa poche, que par l'effet de sa filouterie. Quand ces pauvres marins, à la peau boucanée et qui allaient pieds nus, le pantalon roulé haut sur des mollets d'anguilles, eurent péniblement allé au sec leur poisson bien gras, se promettant un bon bénéfice de 150 livres de son huile précieuse et de ses fanons, ainsi en sirotant, en imaginant un thé de choix avec leurs épouses et une fameuse pinte de bière avec leurs compères. Sur la foi de la part qui échoirait à chacun, à cet instant paraît un très savant, très chrétien et très charitable personnage qui porte un exemplaire de Blackstone sous le bras. Il pose l'ouvrage sur la tête de la baleine et s'exclame « Bah les pattes, ce poisson, mes maîtres, est un poisson amarré. Je le saisis en tant que propriété du Lord Gardien. » Ces mots jettent les pauvres marins dans une stupéfaction respectueuse typiquement anglaise. Ne sachant que dire, ils se mettent à se gratter la tête avec vigueur, tandis que leur regard va et vient lugubrement de la baleine à l'inconnu. Leur affaire ne s'en trouve pas pour autant réglée, et le cœur de Pierre du Savant, personnage portant son exemplaire de Blackstone, n'en est nullement attendri. L'un d'eux, enfin, après s'être longuement gratté dans l'espoir d'une illumination, s'enhardit à parler. « Monsieur, s'il vous plaît, qui est le Lord Gardien ?» Le duc. Mais le duc n'a rien à voir avec la capture de ce poisson. Il lui appartient. Nous avons été à la peine, couru de grands dangers, dépensé de l'argent. Tout cela va-t-il profiter au duc? Nos efforts ne nous vaudront-ils rien d'autre que des ampoules? La prise lui appartient. Le duc est-il si affreusement pauvre qu'il en soit réduit à pareilles extrémités pour gagner sa vie? La prise est sienne. Je pense céder ma vieille mère grabataire avec une partie de mon profit. La prise est sienne. Le duc ne se contentera-t-il pas d'un quart ou d'une moitié? La prise est sienne. En un mot, la baleine fut saisie et vendue, et sa grâce, le duc de Wellington, encaissa le produit de la vente. Un honnête pasteur de la ville, estimant que, vu sous un certain angle et compte tenu des circonstances, l'affaire avait peut-être une toute petite chance de trouver une solution un peu moins rigoureuse, adressa une requête respectueuse à sa grâce, la priant d'examiner avec la plus grande attention le cas de ces infortunés marins. À quoi Monseigneur le Duc répondit en substance. Les deux lettres ont été publiées, que la chose était faite, qu'il avait reçu l'argent et serait reconnaissant au révérend homme de bien vouloir désormais s'abstenir de se mêler de ce qui ne le regardait pas. N'est-ce pas là, toujours sur la brèche, le vieil homme qui se tient au carrefour de trois royaumes et, de tous côtés, arrache leur aumône aux mendiants ? On aura compris que, dans le cas présent, le prétendu droit du duc sur la baleine résultait d'une délégation royale. Il nous faut donc chercher à connaître le principe au nom duquel le souverain est originellement investi de ce droit. La loi a déjà été exposée, mais Plowden nous en explique le motif. D'après lui, la baleine ainsi capturée appartient au roi et à la reine à cause de son excellence supérieure. Et les commentateurs les plus sages jugent depuis toujours l'argument incontestable. Mais pourquoi le roi devrait-il avoir la tête et la reine la queue ? Donnez-nous la raison, messieurs les juristes. Dans son traité sur l'or de la reine, la cassette personnelle de la reine, un ancien magistrat du banc du roi, un certain William Prynne, raisonne comme suit. La queue appartient à la reine, afin que les toilettes de sa majesté puissent être garnies de baleines. La phrase fut écrite à une époque où les lames noires, des fanons de la baleine du Groenland ou baleine franche, étaient d'un usage fort répandu dans la confection des corsets. Or, ces fanons ne se trouvent pas dans la queue, mais dans la tête. Et le perspicace juriste qui est Prynne commet donc une lamentable erreur. La reine serait-elle une sirène pour qu'on lui offre une queue ? Un sens allégorique se cache peut-être là-dessous. Les juristes anglais reconnaissent deux poissons royaux, la baleine et l'esturgeon, qui sont tous deux propriétés de la couronne, sous certaines conditions dont ils fournissent le dixième des revenus ordinaires. Je ne sache pas qu'un autre auteur ait jamais avancé cette idée, mais la logique déductive voudrait que l'esturgeon soit partagé de la même manière que la baleine. Le roi recevant la tête, excessivement compacte et élastique, si particulière à ce poisson, attribution que l'on pourrait s'amuser à justifier, d'un point de vue symbolique, par des affinités supposées. Il semblerait alors qu'il y ait une raison à tout. Même aux lois.